parce qu'il s'agit d'une tradition de la Société des Amis de Raymond Aron, et j'ajouterai du Centre de recherche Raymond Aron de l'École de Toulouse en sciences sociales. Chaque année, un colloque est consacré à une question qu'Aron avait abordée pour essayer de l'éclairer à la lumière de son œuvre. Et ensuite, cette année, ces colloques ont une signification particulière, et donc ils se déroulent sur 2 journées, parce que nous avions le sentiment qu'il s'agissait de reproposer la pensée d'Aron, en un sens, de discuter à nouveau la pensée d'Aron pour penser nos gros temps, la politique par gros temps, comme on dit, et donc aussi d'essayer de proposer à d'autres ces dialogues féconds. Et j'ajouterais aussi d'ailleurs qu'il s'agissait pour, après, dans le contexte de ces colloques, d'un passage des consignes au sein de la Société des Amis d'Aron, qui n'est pas consacré à la diffusion d'une doctrine. Aron n'ayant pas de doctrine, mais plutôt donc à rendre à nouveau disponible une œuvre qu'est-ce qui s'est avérée au fil du XXe siècle, un siècle difficile, on s'est souvent trompé, très éclairante. Et donc je crois que ces 2-3 intentions nous ont inspiré, nous ont motivé pour ces 2 journées.
Ce qui est important, c'est que Raymond Aron a eu des élèves, par exemple Pierre Astaire, qui est une grande figure des relations internationales, par exemple Pierre Manant, qui est une grande figure de la philosophie politique, et ces élèves ont eu eux-mêmes des élèves, des disciples, des gens qui se sont inspirés d'eux, et la méthode de Raymond Aron, qui est peut-être ce qui est le plus important, le plus vivant, cette méthode, cette volonté de considérer les choses politiques dans toute leur complexité, cette volonté de modération aussi, c'est quelque chose qui s'est transmis à travers les générations, et je crois qu'il n'y a pas d'école aronienne de sciences politiques, de philosophie ou de sociologie. En revanche, il y a un attachement à un certain nombre de principes, une déontologie, une façon d'envisager les problèmes de manière ouverte, sans exclusive, sans sectarisme. Et ces valeurs, au fond, sont transmises aujourd'hui. Et je crois que le souci des Aroniens historiques, c'est de faire vivre, non pas cette famille de pensée, mais cet état d'esprit.
Oui, il répète souvent, d'ailleurs, que les 2 valeurs qu'Aron mettait en avant, c'était le respect des faits et le respect des autres. Pierre Asner le répétait souvent. Et ce sont sans doute les deux axes qui permettent de circonscrire, disons, le cercle de l'aronisme.
Je sais par quelles œuvres j'ai entamé un véritable dialogue philosophique avec sa pensée. Je citerai effectivement ses thèses philosophiques des années 30, mais j'ai un souvenir assez vivant des premières œuvres où j'ai commencé à voir la perspective par laquelle j'aurais continué le dialogue avec lui. Et donc je pense à ces ouvrages des années 50-60, la trilogie de la Sorbonne, mais je pense aussi à des textes plus courts où il s'est un peu expliqué lui-même sur son horizon philosophique. J'aime citer ces courts textes, Le fanatisme, la prudence et la foi, où je pense à Aron est obligé, il s'est forcé d'expliciter ses présupposés philosophiques pour répondre aux plusieurs malentendus qui avaient entouré l'opium des intellectuels. Et donc, en un sens, pour répondre aussi à la critique des scepticismes froids. Et donc, dans ces courts textes, je crois qu'on trouve quelque chose d'essentiel, de ce qui était l'ensemble de cette œuvre multiforme.
Pour ma part, en fait, c'est le fruit d'un pur hasard. C'est pas du tout de logique dans ma rencontre avec Aron. C'est un cadeau qui m'a été fait dans la famille par un aîné. C'était le livre de Nicolas Bavrez, donc la biographie d'Aron. Et puis, en prenant conscience de ce qu'a été l'itinéraire politique d'Aron au XXe siècle, je suis allé vers des lectures, disons, de classiques, c'est Démocratie et totalitarisme, je crois, le premier livre que j'ai acheté, j'ai lu d'Aron. Et puis, il me semble que le second, c'était L'essai sur les libertés. Et dans le fond, après avoir pas mal voyagé dans sa bibliographie, je crois que ce sont 2 livres qui restent pour moi des livres particulièrement importants.
Moi, il y a 2 aspects de son œuvre qui m'ont marqué au début de ma carrière ou de mon parcours dans les sciences sociales. C'est d'abord Le spectateur engagé, qui est le livre d'entretien que Raymond Aron a donné à Jean-Louis Missika et Dominique Volton, qui sont des entretiens télévisés à la fin de sa vie, où Raymond Aron revient sur son parcours. Et ce qui m'avait frappé à l'époque où j'avais lu cet ouvrage, c'est le positionnement de Raymond Aron, c'est-à-dire le positionnement d'un véritable universitaire, qui est soucieux de rigueur, d'analyse clinique des phénomènes politiques et sociaux, et en même temps quelqu'un qui avait le souci du débat public, de la conversation civique, et qui se positionnait sur la base de cette connaissance des phénomènes politiques, spectateur engagé donc, c'est-à-dire quelqu'un qui défendait la démocratie libérale et qui s'opposait au communisme, qui s'opposait à tous les opposants de la liberté. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est la dimension de relations internationales. Aron a été un grand observateur des relations internationales dans ses éditoriaux du Figaro, bien sûr, mais aussi dans un livre majeur, enfin deux livres majeurs, Paix et guerre entre les nations, qui est le premier grand traité, au fond, de relations internationales paru en France en 1962 et qui a bercé des générations d'étudiants. Penser la guerre Clausewitz, qui est un livre plus théorique, mais qui a mis en fait au centre de la réflexion les questions stratégiques qui étaient importantes à l'époque de la guerre froide, et où Raymond Aron propose une interprétation magistrale de Clausewitz. Donc moi qui travaille aujourd'hui sur les questions internationales et stratégiques, Raymond Aron a joué le rôle d'aiguillon dans mon parcours.
Je crois qu'Aron a offert lui-même son introduction à sa pensée, son œuvre, parce que ses mémoires sont un livre très particulier où il revient sur un siècle qui se confond avec sa vie et son œuvre. Parce qu'il tenait beaucoup à son œuvre au point d'avoir, au fond, beaucoup parlé, beaucoup résumé dans son œuvre presque l'ensemble de sa production, même si la tâche est presque impossible. Et donc, au fond, même si je crois que chaque ouvrage ne se réduit pas à ce qu'Aron a dit dans les mémoires, il s'agit vraiment d'un livre par lequel on peut entrer dans son œuvre. Mais je crois que comme Aron avait la pensée d'Aron à plusieurs couches, comme on dit aujourd'hui, même si je n'ai pas trop l'image, plusieurs disciplines, et il abordait plusieurs disciplines, plusieurs questions, souvent premières, on peut choisir l'entrée par son œuvre à partir de son propre questionnement. S'il s'agit d'un questionnement sur l'historicisme, la philosophie de l'histoire, ou réflexion sur la nature industrielle, commerciale des sociétés modernes, une réflexion un peu sociologique, ou même une réflexion un historien sur le XXe siècle, je crois que justement la fécondité du dialogue avec Aron est faite aussi par le fait qu'il permet d'aborder l'ensemble des aspects de ces tout, qu'est-ce que sont nos sociétés.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Giulio, et je pense qu'une fois qu'on a lu les mémoires, on peut aller vers la trilogie sur les sociétés industrielles, qu'on a peut-être tendance aujourd'hui à négliger un peu, mais qui me semble très formatrice pour les étudiants, d'abord parce que c'est un cours de Sorbonne, donc c'est très oralisé et très facile d'accès, peut-être plus facile que des ouvrages théoriques comme Paix et guerre entre les nations. Et puis c'est quand même une trilogie qui permet de comprendre en fait la spécificité de la pensée aronienne, c'est-à-dire une pensée politique qui donne un véritable statut aux politiques. En prenant en compte la dimension économique, en prenant en compte la dimension sociale, la stratification sociale, mais au terme d'une démarche assez longue, d'affirmer, sinon le primat, au moins l'autonomie relative de cette sphère spécifique qu'est le politique. Et il me semble que quand on se destine à faire de la science politique, ou quand on s'intéresse à la science politique, c'est assez heureux de donner un statut spécifique à cette sphère d'activité, la sphère politique.
Oui, je suis d'accord avec mes deux collègues, bien entendu, collègues et amis. Outre le spectateur engagé donc, que j'ai déjà conseillé, qui a été personnellement mon introduction à Raymond Aron, je parlerai peut-être d'un livre moins connu qui est aussi un cours que Raymond Aron avait donné à l'ENA, puisqu'à une époque, au sortir de la guerre, il était professeur à l'École nationale d'administration. Il avait fait un cours qui a été publié sous le titre « Introduction à la philosophie politique », qui est là aussi un cours, donc qui est peut-être plus accessible que ces gros ouvrages théoriques, et qui propose non seulement un portrait et un tableau raisonné des grandes questions politiques de notre temps, mais qui aussi montre bien qu'Aron était un philosophe politique, qui avait le souci de ce questionnement sur les grands auteurs, les grandes questions politiques, avec l'idée que la philosophie politique, et je crois que ça c'est un des gros enseignements de notre colloque, que la philosophie politique n'est pas simplement un exercice d'abstraction, mais qu'elle contribue à l'intelligence des choses politiques elles-mêmes. Et je crois que ce livre le met bien en évidence.
Et j'ajouterais, chose au fond assez je dirais, répandu, mais pas autant que ça, qu'il est très intéressant de lire ce que ses élèves, ses amis, ses admirateurs ont écrit sur lui. Effectivement, beaucoup des grands éducateurs ont eu des textes, ont eu des élèves qui ont écrit des choses très élogieuses à leur égard, mais c'est particulièrement vrai, je dirais particulièrement instructif et particulièrement touchant. Dans le cas d'Aaron, je pense un texte d'un de nos maîtres communs, Pierre Manin, Aaron éducateur, qui m'avait beaucoup impressionné, touché. Et je crois que c'est révélateur parce que je ne veux pas remonter à Socrate et Platon, mais souvent ce que les élèves et amis d'un philosophe disent d'un philosophe est particulièrement instructif, surtout dans les cas d'Aaron, où effectivement on n'a pas consacré peut-être autant de textes interprétatifs comme on les voudrait et comme justement on essaie maintenant de faire.
Mais c'est d'autant plus vrai que il faut insister sur le mot que tu as employé, le mot élève. Ce ne sont pas des disciples, ce sont des élèves. Et donc les points de vue qu'ils peuvent renvoyer sur Aaron ne sont pas les points de vue des disciples qui vénèrent le maître, mais d'élèves qui se positionnent par rapport à quelqu'un qui les a aidés à devenir ce qu'ils sont.
Mais il suffirait pour savoir ce que la société des amis d'Aaron pourrait, devrait faire aujourd'hui, et nous, dans les cadres de cette société, de continuer, de prolonger ce que Gwendal vient de dire. Comme il ne s'agit pas d'une œuvre qui prête à des disciples, si j'ose dire, qui prête à porter des disciples, mais d'une œuvre qui recèle les questions premières, c'est qu'on devrait faire, je crois, c'est tout simplement de continuer à aborder les questions premières aussi bien de la cité que, si vous voulez, celle qui concerne la vérité. Les deux choses ensemble, alors qu'avant, était très sensible à. Que la conciliation de ces deux passions humaines, la passion pour la chose politique et la passion pour la vérité, ne sont pas aussi conciliables que nous les croyons souvent dans nos démocraties. En tout cas, je crois qu'il s'agira, je dirais, simplement de continuer à aborder ces questions fondamentales à la lumière aussi de ses œuvres, comme il les faisait quand il commentait pour comprendre son temps, quand il commentait Marx, Tocqueville, Thucydide, de Kant, Max Weber et Aristote.
Peut-être aussi de créer un réseau international des Aaroniens très vivant.
Il existe déjà d'une certaine façon, parce que, en tout cas, ce qui est frappant avec les Aaroniens, on l'a vu à travers ce colloque, c'est qu'il y a une conversation mondiale en quelque sorte, en tout cas avec un certain nombre de pays importants, l'Italie bien sûr, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre. Raymond Aaron a été polyglotte, il parlait allemand, il parlait anglais, il faisait des conférences partout dans le monde. Donc je crois que ça c'est quelque chose d'important hein, pour la Société des Amis, c'est-à-dire de rayonner comme elle le fait déjà, mais essayer de, en quelque sorte, de transmettre ce goût pour l'approche aaronienne à travers le monde. Si je dois parler d'un point de vue peut-être plus personnel, avant de laisser la parole à Gwendal, je dirais que moi je travaille plutôt sur les questions internationales et stratégiques. Le colloque qui nous réunit s'intitule « Penser la politique par gros temps ». Un des éléments du gros temps, c'est quand même la conjoncture internationale, le fait que la question de la guerre revient sur le devant de la scène. Raymond Aaron a toujours été préoccupé par ces questions, d'abord parce qu'il a vécu lui-même la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide. Donc, sans être catastrophiste, je crois qu'il faut peut-être, disons, dans le cadre de la Société des Amis, partager l'inquiétude qui était celle de Raymond Aaron, mais une inquiétude constructive qui vise à d'autant mieux penser la paix et à une paix possible qu'on prend au sérieux la question de la guerre, des conflits, de la violence, du terrorisme. Donc, personnellement, c'est un souci qui m'anime et j'essaierai toujours, dans la suite des autres, notamment Pierre Asner, de pointer l'attention de la Société des Amis sur ces questions.
Oui, alors pour ma part, je crois que la chose est assez claire. La mission de la Société des Amis était de rendre accessible l'œuvre en republiant un certain nombre d'ouvrages, en publiant aussi des manuscrits qui étaient dans les archives. Cette mission aujourd'hui est arrivée à son terme, et je crois que ce que nous voulons faire avec l'ensemble de ceux qui participent à ce renouvellement générationnel, c'est de redonner sa place à l'œuvre d'Aaron. Nous en avons parlé ce matin pendant le colloque, hier aussi un peu. Je dis souvent, pour ma part, que c'est un classique méconnu. Tout le monde le reconnaît comme classique, mais finalement, son œuvre n'est plus tellement lue, en tout cas en dehors de notre cercle
représenté dans ce colloque. Donc il y a, je pense, cet enjeu hein, d'en faire un véritable classique et de le faire reconnaître d'une manière générale, notamment en sciences politiques, hein, mais je crois que c'est aussi le cas en sociologie. Et rétablir aussi la vérité sur son rôle de père fondateur de cette discipline qu'est la science politique en France. Voilà. Je crois que c'est un enjeu qui est un enjeu prioritaire et que nous avons un accord sur ces questions.
Qui a été d'ailleurs un des enseignements du colloque. On a une communication qui a bien établi l'importance de Raymond Aron pour la science politique et la nécessité donc d'enseigner sa pensée. On est tous enseignants, on est tous amenés à rencontrer des étudiants, on parle des grands auteurs, et effectivement on évoquait tout à l'heure la question de Pierre Bourdieu, qui est un auteur, qui était d'ailleurs l'élève hein, de Raymond Aron, il faut le rappeler, ici même à l'école des hautes études. Pierre Bourdieu est un auteur devenu classique, mais un classique qu'on enseigne. Raymond Aron, c'est un classique, mais peut-être qu'il n'est pas encore suffisamment enseigné sur les bancs de l'université, voire au lycée, et peut-être que là, il y a vraiment un chantier à ouvrir.
Ouais, je crois que la situation de Raymond Aron, si on voulait prendre une métaphore, c'est un peu comme les secrets de famille. C'est-à-dire, tout le monde le sait, mais personne ne le dit. Et en sciences politiques, tout le monde sait que c'est un père fondateur, tout le monde sait que c'est un classique, mais finalement, on est assez peu à le dire. Donc, il faut briser le secret de famille, et je pense que la justice sera faite.
Justement, parce qu'on peut élargir la même réflexion à d'autres, si l'on tient à parler de discipline, à d'autres disciplines. J'ai souvent fait l'expérience d'un dialogue avec des sociologues, des amis, de régneurs, de philosophes politiques notamment, que dès qu'on lit Aron, son œuvre étant souvent accompagnée par des préjugés, dès qu'on lit Aron, tout le monde nous dit qu'il est très intéressant, il est même impressionnant souvent. J'ai un ami qui a écrit un très beau livre sur Dokkal qui me disait qu'au fond, avant, on avait compris ce qu'il voulait dire dans ce livre sur Dokkal, alors qu'avant, il est connu pour être un critique de Dokkal. Donc, après tout, je dirais que nous voulons simplement qu'on ouvre ces livres, qu'on les critique si l'on veut.